BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roura.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur de l'immobilier, le pro de l'IMO. Des témoignages terrain de vos métiers et surtout des solutions. D'ailleurs, aujourd'hui, on en trouve des solutions pour les primo-accédants des secteurs où les prix ont explosé avec le tourisme et les résidences secondaires. Il y a aussi des solutions de financement et des opportunités pour acheter pour les primo-accédants de ces territoires-là. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Aujourd'hui, on fait le point sur l'état global du marché de l'immobilier ancien, immobilier classique ou haut de gamme. Les effets de la guerre au Moyen-Orient se font déjà sentir, en bien comme en mal d'ailleurs. On va voir ça dans quelques instants. Allez, c'est l'heure du pro de l'IMO d'abord.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Charlie Mariette, directeur de l'agence Vous Financez des Sables d'Olonne. Bonjour Charlie.
Bonjour Marie.
Alors je le disais, oui, il y a des secteurs, le vôtre, dans les Sables d'Olonne, pas que, mais il y a le vôtre, où effectivement, nous les Parisiens notamment, on aime bien aller se payer une petite résidence secondaire. Alors je dis nous, je me sens pas du tout concernée, mais il y en a beaucoup. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque une explosion des prix. Et derrière, les locaux, ils ont du mal eux-mêmes à accéder à la propriété. Mais ça tombe bien, il y a des gens comme vous, Charlie, qui aident ces primo-accédants dans des difficultés à trouver finalement moyen de répondre à leurs demandes.
Oui, effectivement, Marie. Alors, je vais tempérer un tout petit peu le propos. Heureusement, il n'y a pas que les Parisiens, et on les remercie de venir pendant leur
projet. Il y a les Lyonnais aussi, non, je plaisante.
Pour eux, ça fait un petit peu plus loin, mais quoi qu'il en soit, effectivement, on est sur un beau secteur, le secteur des Sables d'Olonne, et un secteur qui est très porté par le tourisme. Et donc, on rencontre aujourd'hui une forte demande sur du logement locatif. Et pour du primo-accédant, c'est vrai qu'on a plus de difficultés à trouver des solutions. Alors, comme vous l'avez dit, vous l'avez bien présenté, notre travail, nous, au sein de l'agence, c'est effectivement d'essayer de guider les clients, de les orienter et d'aller chercher pour eux tous les leviers qui peuvent être disponibles pour les aider à acheter et à s'installer sur le secteur où ils ont grandi finalement.
Et Charlie, c'est pas que le levier bancaire, parce que je le disais, vous êtes patron de l'agence Vous Financez, donc votre métier c'est le courtage, mais en fait, dans votre métier, vous allez un peu au-delà, là en l'occurrence, puisque vous allez regarder finalement les territoires un peu prioritaires qui sont donnés aux locaux par certaines mairies.
Oui, c'est ça. En fait, de par le maillage, on va dire, du réseau, on est amené à rencontrer des communes, des maires sur le secteur, et puis qui eux ont à cœur de trouver des solutions pour permettre à leurs résidents de s'installer et d'investir. Et donc, dans ces cas-là, on essaye de proposer des solutions globales avec de la construction, du terrain un petit peu moins cher, et ce qui permet de rentrer dans les enveloppes. Après, sur la partie de notre métier, Marie, là où c'est très intéressant, c'est qu'en termes de négociation, on va dire qu'on pousse un peu plus peut-être ces dossiers-là pour aller chercher peut-être des endettements un peu plus élevés.
Alors là, en l'occurrence, justement, Charlie, parlez-nous du cas concret dont vous souhaitiez nous parler ce midi.
Alors, des cas, il y en a de nombreux, mais globalement, sur le cas présent, on a une jeune femme seule qui souhaitait s'installer et qui a grandi dans le secteur. Et qui a mis, toute son énergie et qui a suivi toutes nos recommandations pour aller chercher ce dossier. Le partenaire bancaire en face, nous a accordé des dérogations en termes d'endettement, puisqu'on est sur des endettements qui sont pas très loin des 40%. Donc aujourd'hui,
Et la banque, elle dit oui à 40% d'endettement.
La banque, elle dit oui, parce que la banque, vous savez, avant tout, c'est de la confiance. Donc, quand elle voit que le client va jouer le jeu et puis qu'il y a un enjeu un peu territorial, elle y va.
Et donc là, on est sur quoi? Sur un profil de... Vous parliez d'une femme seule, elle est jeune, moins jeune. Elle a un métier qui donne des perspectives aussi de sécurisation et puis d'épargne potentielle un peu plus importante à l'avenir pour la banque. C'est quoi? En fait, l'idée, c'est de nous dire qui peut se projeter dans le cas de cette dame-là, par exemple.
Je comprends votre question, Marie. Et là, pour le coup, pas nécessairement. Je vais vous dire, et sans préjuger, on est sur une personne que l'on va rencontrer très très régulièrement dans nos clients. Elle a un salaire moyen sur le secteur, un niveau d'épargne pas plus conséquent que ça, des perspectives qui sont pas non plus extraordinaires. Et je vous dis sans jugement, Mais aujourd'hui, elle fait partie de la population d'actifs du secteur et qui a besoin pour élever sa famille, grandir, et bien de s'installer ici et de vivre ici durablement.
Vous n'avez pas répondu à ma question, à quel âge ?
Disons qu'elle est, elle approche la quarantaine.
Elle est très jeune, jeune, Charlie. Oh là là, elle est très jeune. Mais non, mais parce que effectivement, si j'ai besoin de me projeter dans votre secteur ou un autre particulièrement tendu, il n'y a pas que votre secteur, hein, et où je me dis, est-ce que les banques peuvent être particulièrement généreuses ou aller au-delà des normes du fameux HCSF, le Haut Conseil pour la stabilité financière, en termes de capacité d'endettement et de taux d'endettement, il faut que je vois si moi-même mon profil peut peut-être aller avec ce pourquoi vous avez trouvé un financement.
J'entends ce que vous me dites aujourd'hui. Nous, sur l'agence, on a en ce moment, je regardais avant de vous appeler, une dizaine de dossiers où, en termes d'âge, on est entre 22 et 62 ans pour les plus âgés.
Ah oui, donc il y a une marge.
Il y a une grande marge.
Bonne marge.
Vous pouvez venir, Marie, il n'y a pas de problème.
Mais non, moi je suis la méchante parisienne. Merci pour votre témoignage, Charlie Mariette, directeur de l'agence Vous Financez des Sables d'Olonne. Je viendrai, Charlie, je viendrai. Peut-être pas pour acheter, mais je viendrai. Merci pour votre témoignage. Si comme Charlie, vous avez un témoignage terrain à nous apporter sur vos métiers de l'immobilier, avec des conseils à la clé pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et à mes côtés, Richard Sipil, le directeur général de Barnes. Bonjour Richard.
Bonjour Marie.
Et à mes côtés également, Jordan Frarier, président de Foncia Transactions. Bonjour Jordan.
Bonjour Marie, bonjour Richard.
Alors, je le disais en préambule, j'ai la chance de vous avoir tous les deux sur ce plateau parce qu'on va pouvoir vraiment parler de l'intégralité de nos marchés de l'immobilier résidentiel ancien. Et il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, forcément, messieurs, je veux vous faire réagir un petit peu à l'actualité. L'actualité la plus brûlante, quand même, ça reste la guerre au Moyen-Orient. On voit les effets que ça peut avoir, cette menace inflationniste. Alors, on a le gouverneur de la Banque de France, plutôt, on va le dire, assez optimiste, finalement, ce matin. Maintenant, la question, c'est, est-ce que vous, ce contexte et cette menace inflationniste, elle commence déjà à avoir des effets sur vos marchés respectifs. Je ne sais pas lequel de vous deux souhaite commencer. Je regarde à droite. Jordan, allez, go.
Je veux bien ouvrir. Je vais être très synthétique. On a passé 4 mois de novembre à février sur un marché qui était stable. On ne reconnaissait plus la croissance qu'on avait constatée sur les 10 premiers mois de 2025. Ouais. Et on a passé 4 mois avec un niveau de marché qui était stable. Mars et avril, qu'on vient de clôturer, sont en recul de entre 7 et 8%.
Ah ouais, donc là, il y a déjà... C'est quoi ? C'est l'effet, j'ai envie de dire, psychologique, ou il y a un effet concret ? On va forcément en parler, hein. Crédit Immo, on voit l'OAT, donc la dette de l'État français à 10 ans, ces 2 derniers mois, elle est entre 3,6 et 3,90, donc c'est quand même pas la folie. On a vu les premières hausses de taux du côté des partenaires bancaires. Est-ce que là, c'est ça qui pêche, c'est psychologique ?
On constate les deux, Marie. On constate pour certains de l'attentisme parce que beaucoup de préoccupations sur ce qui se passe. Pour d'autres qui se sont quand même engagés, on a un taux d'annulation, pour être très technique. En tout cas, on a un nombre de dossiers qui ne vont pas au bout, qui est en augmentation, particulièrement sur ces mois de mars et avril, parce que refus bancaire.
Ah, et donc il y a un vrai sujet. Là, du coup, je me retourne à ma droite, je regarde Richard et je dis, le côté crédit... Pour votre clientèle, a priori, Richard, l'impact, il est quand même pas aussi lourd que pour l'immobilier du commun des mortels.
Non, on a plusieurs clientèles. Celle qui est très, très, très aisée n'a vraiment aucune, n'est pas du tout sensible au taux d'intérêt, mais on va dire pas le ventre mou, mais l'essentiel quand même de notre clientèle qui peut acheter des biens de grande qualité jusqu'à 2-3 millions sont sensibles malgré tout parce qu'on peut prendre des emprunts importants. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que nous, on a un décalage. On n'est pas tout à fait aligné sur ces évolutions. Et sans doute parce que nos clients sont pas sensibles de la même façon au taux d'intérêt. Je crois que nos clients sont plus sensibles au risque fiscal qu'ils peuvent craindre en fonction d'une élection, par exemple. Donc on a eu, jusqu'à la fin de l'année 2025, ça se passait bien, même si on sentait qu'à partir d'octobre-novembre, les acheteurs commençaient à se poser quelques questions, avec la succession de gouvernements, l'attente du budget, ce genre de choses.
Un budget
Oui, un budget, voilà.
Ah oui, c'est vrai, on en a un depuis 2026, pour 2026, c'était en février,
voilà,
c'est ça.
Il faut s'y remettre assez vite d'ailleurs, je crois.
Et ça y est.
Et donc de janvier à mars, ça a été vraiment compliqué. Ouais. Donc on a assisté à une baisse, nous, d'activité de l'ordre de presque 10%.
Ah ouais.
Avril, ça allait un petit peu mieux. Et en réalité, ce qui est fou, c'est qu'au mois de mai, C'est sans doute... Alors, il y a peut-être deux éléments. Le premier élément, c'est les élections municipales n'ont peut-être pas donné un résultat si inquiétant que cela pour nos clients.
Bouleversant, on va le dire.
Bouleversant, je parle en particulier pour ce qui concerne les extrêmes. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'attend évidemment à une hausse des taux d'intérêt. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est quand même relativement sensible aux taux d'intérêt, même sur une clientèle aisée. Et le fait que ces taux d'intérêt vont sans doute augmenter, se disent, bon, bah, ça fait un moment qu'on a un projet.
Autant y aller maintenant.
On va foncer.
Ouais, parce que c'est ça. Hein.
Et le mois de mai qui se présente, c'est-à-dire que nous, on sait déjà tout ce qui va signer en mai, il est exceptionnel. C'est-à-dire que je sens que le mois de mai aura été un rattrapage.
C'est là votre printemps de l'immobilier.
Oui, absolument. Non, mais c'est tout à fait exceptionnel et étonnant.
Mais parce que, Richard, il y a aussi un double effet qui se coule. Quand j'ai fait le préambule et le sommaire de l'émission, je disais qu'on avait déjà les premiers effets de la guerre au Moyen-Orient sur vos marchés respectifs, en bien comme en mal. En mal, évidemment, majoritairement, mais en bien aussi, parce que quelque part, sur votre créneau de l'immobilier de prestige, il y a ce retour à la sécurité aussi qui est là. Et j'imagine que vous voyez des clients qui investissaient peut-être ailleurs, peut-être au Moyen-Orient, revenir vers la France.
Oui, c'est vrai que vous savez, je le dis régulièrement quand je viens ici, on sort une étude sur la façon dont les ultra high net worth individuals, donc les très riches, s'intéressent à l'immobilier. Et chaque année, vous avez des villes qui deviennent des villes à succès, ouais. Des villes parce qu'il y a un intérêt fiscal, parce qu'il y a un intérêt d'entrepreneur, etc. Donc cette année, on parlait beaucoup, beaucoup, jusqu'à il y a 4-5 mois de Dubaï.
Ouais, bah ouais.
Donc avec ce qui s'est passé, ça a changé. Mais vous avez des villes qui sont en permanence dans le top 5 ou 6, c'est Paris. Et en réalité, c'est vrai que lorsque on parlait de Dubaï et tous ces jeunes entrepreneurs excités par le fait de payer très peu d'impôts voulaient partir là-bas, aujourd'hui, on voit bien que finalement, il y en a beaucoup qui se disent, voire même des clients qui habitent dans ces pays d'origine peu sécurisés, se disent finalement, si je veux redistribuer mes actifs, la France et en particulier Paris est une destination formidable sur laquelle, en tous les cas, ou dans laquelle je ne prendrai pas de bombe sur la figure.
Et puis même Viva España, hein, c'est toute l'Europe. Hein, on sait qu'il y a beaucoup de villes espagnoles aussi.
Madrid.
Madrid,
Madrid est sortie première de notre palmarès, de la dernière étude qui est sortie en mars. Madrid est une ville sublime. Il fait beau pratiquement toute l'année. Vous savez, c'est la ville des 15 minutes. Vous mettez au maximum 15 minutes pour aller d'un endroit à l'autre à Madrid.
Je connais pas ça, moi.
Non, mais ça, à Paris, on a du mal à connaître. Et donc, elle a beaucoup, beaucoup de qualités qui font qu'il y a beaucoup d'Européens et Sud-Américains qui s'y intéresse.
Bon, ça, c'est la grosse actu pour nos secteurs respectifs, qui est évidemment ce qui se passe au Moyen-Orient et puis cette incertitude sur la durabilité ou pas de cette guerre. Il y en a un autre, quand même, sur nos secteurs respectifs, encore une fois. Bah, ce sont nos travaux de rénovation. Quand même, ils ont attendu que je sois en vacances il y a 10 jours pour annoncer quoi ? Un assouplissement pour les propriétaires bailleurs. Donc, alors, on reste sur le calendrier de rénovation des passoires thermiques, mais enfin, on a donc un délai qui serait potentiellement bientôt donné, puisque c'est une proposition de loi qui devra être votée. Mais enfin, l'idée, c'est de donner 5 ans de plus pour les apparts dans les copros, 3 ans de plus pour les maisons. Je vous regarde, Jordan, est-ce que ça peut avoir un impact sur le secteur et dans quelle mesure ? C'est une question très large que je vous pose là.
Alors, sur le secteur de la transaction, honnêtement, j'y crois pas. Je vois pas ce que ça va changer. Là où on peut espérer un tout petit peu d'oxygène, c'est sur le marché de la location. Pas besoin
c'est
de
le
revenir.
But. Au départ, c'est le but. Ils prétendent que c'est 700 000 biens qui pourraient être mis sur le marché de la location grâce à cet assouplissement.
Ouais, alors ça, je n'irai pas jusque-là. En tout cas, est-ce que ça peut remettre un petit peu d'oxygène sur le marché ? Oui, je pense. Est-ce que ça peut surtout donner un petit peu de temps aux propriétaires bailleurs qui sont des copropriétaires et qui vont pouvoir conduire ou influencer sur des travaux énergétiques à la maille de la copropriété ? Ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle.
Mais vous pensez pas que ça pourrait justement peut-être tous les propriétaires bailleurs de copro qui s'étaient laissés convaincre qu'il fallait faire les travaux de réno et qui disent « Oula, il est urgent surtout de ne rien faire, attendons !» Puis après tout, il y a une élection présidentielle l'année prochaine, sait-on jamais ? Ça, c'est le risque quand même. Hein.
Mais comme d'habitude, Marie, il y aura certainement des deux. Vous parliez avec Richard de la situation de marché de la transaction. On a parlé de l'attentisme. Oui, c'est aussi, comme le disait Richard, le meilleur moment, quand on a un vrai projet immobilier en transaction, c'est le meilleur moment pour se décider à vendre ou à acheter. Un vendeur ne vendra vraisemblablement pas plus cher, voire moins cher dans quelques mois, et un acheteur empruntera vraisemblablement plus cher dans quelques mois. Donc, ceux qui ont un vrai projet, c'est le moment de le faire.
C'est important ce que vous dites, et je me retourne vers vous, Richard, parce qu'effectivement, vous disiez, bon, bah, cet assouplissement ne va pas vraiment changer grand-chose sur la transaction. Enfin, il pourrait tenter, certains, de réaugmenter le prix des passoires. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez envisager, un bouleversement, en tout cas des prétentions vendeurs, en se disant, bah, après tout, mon bien que j'avais un peu décoté à l'affichage, parce qu'on m'avait expliqué, parce que l'agent m'avait expliqué que c'était un F, que c'était un G, etc. Bon, finalement, je vais essayer de réaugmenter le prix. Est-ce que ça peut bouleverser un peu les tarifs ?
Les propriétaires qui veulent réaugmenter les prix font une erreur fatale s'ils veulent vendre leur bien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de propriétaires qui refusent de baisser leur prix alors qu'ils devraient le faire pour vendre leur bien. Donc le marché est un peu grippé à cause de ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a, on a quand même une situation économique, politique, géopolitique qui est quand même compliquée. Il y a une guerre, il y a plusieurs guerres. Mais, et du coup, les propriétaires n'ont pas compris qu'à un moment donné, il faut quand même s'aligner aux conditions de marché. Donc, remonter son prix, c'est une erreur fatale et ils le comprendront sans doute très vite. Mais le DPE, et en particulier ce dont vous parlez, a bloqué quand même des ventes. Les acquéreurs étaient de plus en plus sensibles au DPE, de plus en plus. Alors qu'il y a 3-4 ans,
ils regardaient pas,
totalement.
Ouais.
Et d'ailleurs, il y a toute une cible qui sont les investisseurs qui achètent pour louer, qui là vont peut-être s'y remettre un petit peu. Parce que si c'est plus souple, ça va peut-être nous aider à revendre certains appartements à des investisseurs. Donc, ça va plutôt dans le bon sens. Et attendons de voir si la loi passe, mais si on peut assouplir tout ça, ça ferait du bien à l'immobilier.
Après, il ne faut peut-être pas faire miroiter aux potentiels investisseurs, ceux qui se posaient la question de savoir s'ils allaient acheter, un assouplissement hyper light. Enfin, il faut quand même voir que derrière, il y aura forcément une discussion législative. Que je rappelle que dans les premières intentions d'assouplissement, puisqu'il a fallu parler d'assouplissement, c'était nécessaire, on savait que le calendrier en l'état n'était pas tenable. Mais enfin, il y avait quand même des choses qui étaient prévues, et notamment, par exemple, des baisses de loyers qui seraient plus ou moins équivalentes à la surcharge, le coût énergétique. Je salue les gens de chez Argil qui sont spécialistes dans la donnée immobilière et en particulier sur la rénovation énergétique, qui estiment qu'un locataire d'un T3 paye en moyenne 100 euros de plus pour un logement G versus le même logement E. Donc si par hasard le débat sur ce texte a lieu, il se pourrait aussi que derrière dans la rentabilité il ne s'y retrouve pas. Donc peut-être qu'il faut aussi tenir ce discours-là de ok, un assouplissement, mais vous emballez pas. Il faut toujours faire les travaux. À chaque fois, on me dit que je suis acquise à la cause des grands ensembliers de la rénovation. Mais enfin, il y a un vrai sujet. Hein. J'ai bien fin de la planète, on s'en fiche. Mais voilà, on peut le redire quand même d'un mot. Donc, justement, sur ces prix, moi, j'ai envie d'en parler quand même parce que vous le disiez tous les deux, il ne faudrait pas s'emballer et réaugmenter les tarifs parce que sinon, ça bloque. Ma question, c'est là, la tendance à date, elle est quoi sur les prix ? Est-ce que justement, on est toujours sur cette espèce de moment de frottement où on a toujours des vendeurs qui peinent à accepter la baisse de prix qui est sans doute corrélée aussi à la hausse des taux d'intérêt? Ou est-ce que vous avez ce sentiment que ces vendeurs-là, contrairement au moment de la guerre en Ukraine, se disent « bon, je vais m'adapter assez rapidement parce que je n'ai pas envie non plus de devoir brader dans 2 mois ».
Non, deux indicateurs, deux chiffres très rapides, et je vais à nouveau rejoindre complètement Richard, c'est que on a des prix qui au mètre carré baissent de 1%. Alors c'est pas dramatique,
c'est pas
énorme, mais l'année dernière on le partageait, c'était l'inverse. Et donc ça veut dire qu'on constate quoi ? Ben on constate que les acquéreurs font une fois de plus l'effort sur la superficie des biens achetés. Et le deuxième indicateur, c'est le délai de vente moyen. C'est pareil, c'est pas grand chose, mais c'est plus de jours. On reste sur une échelle de 3 mois, mais c'est plus de jours. Donc ça veut dire que les discussions, pour pas dire les crispations, sont un petit peu plus importantes qu'elles ne l'étaient hier.
De votre côté, Richard ?
Moi, je distingue en réalité sur notre marché haut de gamme le très haut de gamme, ou en tous les cas les biens qui ont très peu de défauts. Le dernier étage ensoleillé, terrasse, vue sur monument, enfin tout ce qui fait plaisir à tout ce qui plaît à tout le monde, que ce soit les Français ou les étrangers, ce bien continue à se vendre très cher et très vite.
On parle de combien ? Dites-nous des prix, là. Faites-nous rêver.
Ah, ça dépend du bien, parce qu'il peut faire 100 mètres carrés comme 300 mètres carrés, mais vous avez des biens qui partent très vite à plusieurs millions d'euros. À 3, 4, 6 millions d'euros, ça peut partir en 3 jours, en une semaine, parce qu'il est, très très bien.
Une espèce de vente flash.
Et vous avez beaucoup d'acheteurs qui ont beaucoup d'argent. Donc, quand vous avez un bien exceptionnel ou vraiment top, vous aurez toujours 3, 4 acheteurs qui sont prêts à s'aligner sur le bien. Donc, on le vend vite et cher. En revanche, tout le reste, donc les étages inférieurs, et plus on va vers le rez-de-chaussée, plus moins c'est recherché. Les travaux avec éventuellement l'inflation des prix et tout ce genre de défauts. Aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de propriétaires qui ne sont pas prêts à baisser suffisamment leurs biens pour vendre. Donc c'est ce qui bloque un peu le marché.
Et c'est ce qui allonge la durée moyenne des délais. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, messieurs, quand même depuis tout à l'heure, c'est que à chaque crise, finalement, il y a quand même quelque chose de positif, c'est que on évite les excès du passé. Et à chaque fois, je reviens en arrière, je repense à 2020, 2021, avant le Covid, et avec ces taux, et même pendant, avec ces taux à 1% et ces prix stratosphériques où on vendait franchement des logements qui étaient pas top, à des prix exorbitants. Là, c'est nettoyé. Là, on est quand même sur un marché beaucoup plus sain qu'il ne l'était.
Le marché est assaini depuis que les taux sont descendus à 3 ou 3 et quelques et que les prix ont baissé de l'ordre de 10%. Là, le marché est assaini et donc devait repartir tranquillement. Maintenant, on a une guerre qui nous tombe dessus, et puis on a deux élections, une municipale et une présidentielle. Donc, ces élections vont forcément peser sur la motivation des acheteurs. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on s'est rejoint là-dessus, c'est que le fait que les taux risquent de monter, là, a précipité sans doute un certain nombre de projets qui nous a permis de relancer la machine, peut-être temporairement. Voilà.
Bon, là, forcément, il nous reste que 4 minutes. Je vais vous demander de sortir les fameuses boules de cristal qui nous permettent de lire l'avenir. Oui, je sais, c'est compliqué, mais au moins, ça sera un peu conseil à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Jordan, si vous devez vous projeter dans les prochains mois, alors je ne vous mets même pas en fin d'année prochaine, mais je sais que quand même, comme le disait Richard, on est quand même après des élections municipales, en pleine guerre au Moyen-Orient et à l'aube d'une élection présidentielle. Vous dites quoi ? C'est le moment d'investir, c'est le moment d'acheter, c'est le moment de rien faire, c'est le moment de vendre. Pour vous, c'est quoi ces prochains mois, prochaines semaines ? Je ne sais pas à quelle échéance vous avez une petite visibilité.
Très simple. Si vous avez un vrai projet de vie, que ce soit résidence secondaire, résidence principale, peu importe, mais si vous avez un vrai projet immobilier, faites-le et faites-le maintenant, entre maintenant et la mi-juillet. Partez en vacances serein, tranquille au mois d'août. Parce que effectivement, avec une éventuelle, je vais continuer de dire éventuelle, remontée des taux, la rentrée risque d'être un peu moins rigolote.
Donc le conseil pour l'immobilier du commun des mortels, c'est passer à l'acte. Par contre, si c'était pas déjà dans les tuyaux ou que c'était à moyen long terme, je me précipite pas non plus.
Même si vous avez pas engagé le projet, vous pouvez l'engager maintenant. Enfin, je veux dire,
l'agent immobilier.
Mais non. On est début mai. On a largement le temps en 3 mois avant de partir en vacances pour ceux qui partent en août.
Regardez le vendeur.
De réaliser un projet.
Toujours la question parce que parfois, effectivement, quand on a un projet qui est vraiment là dans les starting blocks et on se dit oh ça peut attendre 2-3 mois, là vaut mieux y aller. Mais en revanche, si c'était plutôt à moyen long terme, on n'est peut-être pas obligé de se précipiter. On parle quand même de l'achat d'une vie pour la plupart d'entre nous.
Toujours guetter de ne pas rater une opportunité, mais s'il n'y a pas d'urgence, oui, effectivement. Il y a un autre sujet, je fais très rapide, il y a un autre sujet sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on a des acquéreurs, avec tout ce qui se passe, qui, je trouve, s'intéressent d'encore plus près aux charges de copropriété. Nous, chez Foncia, on a un prix moyen de vente à 170 000 euros. On vend 80% de nos biens sur de l'appartement, T1, T2, T3, sur de la copropriété. Et avec tout ce qui se passe, on a des acquéreurs qui sont encore plus attentifs.
Et ils font bien.
Exactement. Alors, je sais que vous en avez parlé avec Zahir. On a un vrai combat chez Foncia de réduire, et Paris réussit l'année dernière d'avoir baissé le montant des charges de copropriété, mais c'est un vrai sujet pour les acheteurs aujourd'hui qui s'inquiètent de les voir augmenter à l'avenir.
Et vous bouclez la boucle sur l'intérêt quand même de faire les travaux, parce que c'est
bien. Et ça reboucle, bien sûr.
C'est bien de revaloriser le patrimoine grâce à un investissement, mais à la fin des fins.
À l'échelle de la copropriété, Marie.
Ben oui, c'est pour ça. Voter les travaux. En plus, ça va être la saison des âgés. Oui, voter les travaux. Richard, alors, vos perspectives.
En une minute.
En deux minutes.
Vous savez, depuis 6 ans, on a des crises qu'on n'imaginait pas qui arrivent chaque année. Donc, s'il faut savoir attendre la prochaine crise ou pas, etc. Ouais. Donc, l'immobilier, c'est la vie. C'est la vie de votre famille, vos enfants. Vivez et achetez quand vous avez envie d'acheter et quand vous avez envie de vous faire plaisir. Là, en plus, c'est une niche fiscale formidable. Donc, faut pas, pour la raison principale.
J'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, Richard ? Qu'a-t-il bu avant de me dire ?
Faites-vous plaisir. Et quand vous vendez quand les prix sont élevés, vous achetez quand les prix sont élevés et vous faites pareil quand les prix sont bas. Donc, de toute façon...
Voilà. Eh oui, mais ça c'est le vrai bon conseil. Moi je me souviens d'une étude, je sais plus si c'était la Banque de France ou je sais plus quelle étude qui a été publiée il y a quelques semaines pour dire finalement les primo-accédants ils sont pas gagnants de quand les taux étaient à 1%, sans rire, et j'ai pas fait ma sup. Bah oui, vous avez après acheté à un prix énorme. Et c'est ça le sujet, un taux ça se renégocie.
Oui, il faut espérer que la banque l'accepte, mais ça se renégocie après.
Alors qu'un prix, a priori, c'est trop tard.
C'est trop tard. Ça se renégocie pas.
Et en plus, non, mais venez à Paris, voilà, il fait bon vivre à Paris.
Magnifique, plus belle ville du monde.
Voilà, plus belle ville du monde, c'est dit. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet qui est quand même hyper intéressant et surtout qui nous intéresse tous, quel que soit nos niveaux de revenus, de se dire, effectivement, c'est jamais le bon ou le mauvais moment, c'est votre moment pour acheter. Et après, on va m'insulter, mais c'est vrai, c'est toujours le vôtre de moment.
Absolument.
Merci à Richard Tsipine, directeur général de Barnes, et Jordan Frarier, président de Foncia Transactions, d'avoir été avec nous. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode des Experts de l'Immo.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.